14. Le bébé, lui avait dit Walter, serait transmis à Mia. Il lui serait envoyé cellule par cellule, tout comme on envoie un fax ligne après ligne. Susanna ouvrit la bouche pour dire qu'elle ne savait pas ce qu'était un fax, puis la referma. Elle comprenait l'esprit de ce que Mia lui expliquait, ce qui suffit à la remplir d'un horrible sentiment de rage mêlé d'effroi. Elle avait été enceinte. Elle l'était en ce moment même, au sens propre du terme. Mais on était en train de faxer, d'envoyer le bébé à Mia. Le processus avait-il démarré rapidement pour ralentir ensuite, ou bien l'inverse? S'accélérait-il maintenant? Plutôt la deuxième solution, se dit-elle. Parce qu'avec le temps, elle s'était sentie de moins en moins enceinte, contre toute attente. Le petit renflement de son ventre avait presque complètement disparu. Et elle comprenait à présent pourquoi elle et Mia ressentaient un attachement équivalent au petit gars. En fait, il leur appartenait à toutes les deux. Il leur avait été transmis comme une transfusion sanguine. Sauf que, quand on veut te prendre ton sang pour le mettre dans quelqu'un d'autre, on te demande la permission. S'il s'agit d'un médecin, je veux dire, et pas de l'un des vampires du père Callahan. Et tu es beaucoup plus près des seconds que des premiers, Mia. Tu en as conscience?
Science ou magie?
Demanda Susanna.
Laquelle vous a permis de me voler mon bébé?
La question fit légèrement rougir Mia, mais lorsqu'elle se retourna vers Susanna, elle fut capable de soutenir son regard sans ciller.
« Je ne sais pas, » dit-elle. « Probablement un mélange des deux. Et arrête de te montrer aussi suffisante. C'est en moi qu'il est, pas en toi. C'est de mes os et de mon sang qu'il se nourrit, pas des tiens. »
« Et alors, tu penses que ça change quoi que ce soit? Tu m'as volé mon enfant avec l'aide d'un magicien abject. »
Mia secoua la tête avec véhémence, ses cheveux noirs lui fouettant le visage comme un orage de jet.
« Ah non ?»
demanda Susanna.
« Alors comment se fait-il que ce ne soit pas toi qui te sois retrouvé à manger des grenouilles dans les marécages et des porcelets dans l'étable et Dieu sait quelles autres horreurs encore ? Comment se fait-il que tu aies besoin de tout ce cinéma, de toute cette mise en scène de salle de banquet dans le château où tu pouvais prétendre que c'était toi qui mangeais ? Pour résumer, chérie, comment se fait-il que la nourriture de ton petit gars soit passée par ma bouche ?
Parce que... Susanna vit les yeux de Mia se remplir de larmes.
Parce que cette terre est désolée. Cette terre est maudite. C'est la terre de la mort rouge, la limite de Discordia. Je ne pouvais pas nourrir mon petit gars ici.
C'était là une bonne réponse. Susanna dut bien l'admettre, mais ce n'était pas la réponse complète. Mia le savait, elle aussi. Parce que Michael, le bébé parfait, avait été conçu ici même, qu'il avait lutté ici même et qu'il luttait toujours quand Mia l'avait vu pour la dernière fois. Et si elle était si sûre d'elle, que faisaient donc ses larmes au bord de ses yeux ?
Mia, ils te mentent au sujet de ton petit gars.
Tu n'en sais rien, alors ne sois pas si haineuse.
Je le sais, crois-moi.
Et c'était vrai. Mais elle n'avait aucune preuve, bon Dieu. Comment prouver un sentiment même aussi fort que celui-ci ?
Flag, Walter, si tu préfères, t'a promis 7 années. Saïr te dit que tu en auras peut-être 5, et si, quand tu arriveras au cochon du sud, il te tend une carte qui dit « Bon pour 3 ans de pouponnage ». Tu vas encore tomber dans le panneau ?
Ça n'arrivera pas, tu es aussi mauvaise que la sorcière, la ferme !
Tu as du culot de me traiter de mauvaise, moi. Toi qui n'as qu'une hâte, c'est de mettre au monde un enfant censé assassiner son propre père.
Je m'en fiche !
Tu es toute troublée, ma fille. Tu confonds ce que tu veux qui arrive et ce qui arrivera réellement.
Comment sais-tu qu'ils ne vont pas le tuer avant même qu'il ait pu pousser son premier cri ?
qu'ils ne vont pas le broyer menu et le donner en pâture à ces salauds de briseurs. La ferme ! Comme dessert super vitaminé. Ça ferait d'une pierre deux coups. La ferme ! J'ai dit la ferme ! Le problème, c'est que tu ne sais rien. Tu n'es que la nounou, la fille au père. Tu sais qu'ils mentent, tu sais qu'ils donnent la farce mais pas la friandise. Et pourtant tu continues et tu veux que moi, je la ferme ? Oui, oui ! Eh bien, je ne la fermerai pas, dit Susanna d'un air sévère, en saisissant Mia par les épaules. Elles lui parurent étonnamment osseuses sous sa robe, mais chaudes aussi, comme si la femme avait de la fièvre. Je ne me tairai pas parce qu'en vérité il est à moi et que tu le sais. C'est pas parce que t'as rangé des choses dans le tiroir que c'est forcément un polichinelle.
Très bien. Elles en étaient finalement revenues à la bonne vieille agressivité tous azimuts. Les traits de Mia se tordirent, lui donnant un air horrible et triste. Dans les yeux de Mia, il sembla à Susanna qu'elle pouvait voir la créature éternelle, insatiable et éplorée qu'avait été autrefois cette femme. Et autre chose aussi. Une étincelle qui pourrait allumer le feu de la croyance avec un peu de temps.
« C'est moi qui vais te faire taire !» lança Mia.
Et soudain, la rue principale de Fédic s'ouvrit, tout comme l'allure s'était ouverte. Derrière apparaissait une sorte de trou noir saillant. Noir, mais pas vide. Oh non, pas vide, Susanna le ressentit très clairement. Elles tombèrent. Mia les précipita vers le trou noir. Susanna essaya de les retenir, mais sans aucun succès. Tandis qu'elle dégringolait dans le noir, elle entendit dans sa tête une pensée psalmodiée, tournant et retournant en un cercle infini et inquiétant. « Oh, Susanna mio, ma chérie divisée, a garé son semi-remorque. » 15. Dans le cochon du sud, l'année... Avant que ce petit leitmotiv exaspérant, mais tellement important, achève sa dernière boucle dans la tête de Susanna Mio, la tête en question alla cogner contre un obstacle assez fort pour faire exploser une galaxie entière d'étoiles dans son champ de vision. Lorsqu'elles finirent par se dissiper, elle vit en très gros apparaître sous ses yeux NKATT. Elle recula et vit Bango Skank attend le roi. C'était le graffiti inscrit sur la porte dans la cabine des toilettes. Sa vie était hantée par les portes, et ce, semblait-il, depuis que la porte de sa cellule s'était refermée sur elle à Oxford, Mississippi. Mais celle-ci était fermée. Bien. Elle en arrivait à croire que les portes fermées présentaient moins de problèmes. Bientôt, celle-ci s'ouvrirait et les problèmes recommenceraient.
Mia, je t'ai dit tout ce que je savais. Maintenant, tu vas m'aider à me rendre au cochon du sud, où je vais devoir y arriver par mes propres moyens. Je le peux, s'il le faut, surtout avec la tortue pour m'aider.
Susanna, je t'aiderai.
Même si l'aide que Mia recevrait d'elle dépendait en quelque sorte de l'heure qu'il était, combien de temps avait-elle passé là-dedans? Elle ne sentait plus du tout ses jambes en dessous des genoux, ni ses fesses d'ailleurs. Et elle se dit que c'était bon signe, mais sous ces lumières fluorescentes, Susanna se dit qu'il devait toujours être quelque part entre 2 heures.
« Qu'est-ce que ça peut bien te faire ?» demanda Mia d'un air suspicieux. « Qu'est-ce que ça peut bien te faire l'heure qu'il est ?»
Susanna chercha tant bien que mal une explication.
Pour le bébé, tu sais que ce que j'ai fait ne le retiendra pas très longtemps, n'est-ce pas?
Bien sûr que je le sais, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on se remette en route.
Très bien. Voyons un peu l'oseille que nous a laissé ce bon vieux Mats.
Mia sortit la petite liasse de billets et les regarda sans comprendre.
Prends celui sur lequel il y a écrit Jackson.
Je...
Embarrassé.
Je ne sais pas lire.
Laisse-moi passer devant, moi je le lirai.
Non.
D'accord, calme-toi.
C'est le type avec les longs cheveux blancs coiffés en arrière, un peu à la Elvis. Je ne sais pas qui est cet Elvis. Peu importe, c'est celui juste sur le dessus. Bien. Maintenant, remets le reste des billets dans ta poche, bien à l'abri. Garde celui de 20 dans la paume de ta main.
Ok, on va faire péter la baraque. Mia, la ferme.
16. Lorsqu'elles pénétrèrent de nouveau dans le hall, à pas lents, sur des jambes toutes picotées par les fourmis, Susanna se sentit quelque peu réconfortée en constatant que le soir tombait. Elle n'avait pas réussi à gaspiller toute la journée, visiblement, mais elle en avait épuisé la majeure partie. Le hall était encore en effervescence, mais la frénésie était retombée. La belle Eurasienne qui les avait accueillis était partie, ayant fini son service. Sous le dais de l'entrée, deux nouveaux hommes en costume de pingouin vert sifflaient pour appeler les taxis, pour des clients pour la plupart en smoking ou robe du soir à paillettes.
« Ils vont à des soirées ?»
dit Susanna.
« Ou peut-être au théâtre ?»«
Susanna, je m'en moque. Est-ce qu'il nous faut obtenir un de ces véhicules jaunes d'un de ces hommes en costume vert ?»«
Non, on va prendre un taxi au coin. »«
C'est ainsi que tu dis ?»
Oh, arrête un peu avec tes soupçons. Je suis certaine que tu vas droit à la mort de ton gamin ou à la tienne, mais je reconnais ton intention de bien faire et je tiendrai ma promesse. Alors oui, c'est ainsi que je dis.
Très bien.
Sans un mot de plus et certainement sans un mot d'excuse, Mia quitta l'hôtel, tourna à droite et reprit la direction de la 2e avenue, vers le 2 Hammerschold Plaza. Et la belle chanson de la rose. 17. Au coin de la 2e et de la 46e, un wagon métallique d'un rouge fané était garé le long du trottoir. Le trottoir était jaune, à cette hauteur, et un homme en costume bleu, un garde du guet, à en juger par son arme de poing, semblait en pleine discussion avec un grand homme à barbe blanche à ce propos. À l'intérieur d'elle-même, Mia sentit une agitation, comme un sursaut d'excitation.
« Susanna, que se passe-t-il ?
Cet homme ?
Le garde du guet, lui ?
Non, celui à barbe. Il ressemble presque trait pour trait à Henschik, Henschik des Manies. Tu ne vois donc pas ?»
Mia ne voyait pas, et s'en moquait éperdument. Elle en déduisit simplement que, bien qu'il fût interdit de garer des wagons le long du trottoir jaune, et bien que le vieil homme parût le comprendre, il était bien décidé à ne pas bouger. Il continua à sortir des chevalets et à poser des toiles dessus. Mia perçut qu'il s'agissait d'une vieille querelle entre les deux hommes.
« Il va falloir que je vous mette une amende, révérend. »«
Faites ce que vous avez à faire, agent Benzik. Dieu vous aime. »
« Bien, je suis ravi de l'entendre. Pour ce qui est de l'amende, vous allez la déchirer, je me trompe ?»«
Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ainsi dit la Bible, béni soit le saint livre du Seigneur. »«
Je veux bien fermer les yeux pour cette fois, » dit Benzik de la garde.
Il sortit un épais bloc de sa poche arrière et se mit à gribouiller dessus. Là encore, elle eut l'impression d'un vieux rituel.
Mais je vais vous dire une bonne chose, Harrigan. À force de vous moquer de la loi comme ça, vous allez vous faire coincer. Un de ces jours, la mairie vous demandera des comptes, et ce jour-là, ils vont se faire un plaisir de vous botter le cul. Et j'espère bien que je serai dans le coin pour voir ça.
Il déchira une feuille de son bloc, s'avança jusqu'au wagon métallique et glissa le papier sous une barre noire posée sur la vitre avant du véhicule. Susanna, d'un air amusé,
« Il se prend une amende, et à en juger par leur petit dialogue, ce n'est pas la première. »
Mia, distraite un instant malgré elle,
« Qu'est-ce qui est écrit sur le côté du wagon, Susanna ?»
Il y eut comme un glissement, pendant lequel Susanna passa presque devant, puis comme l'impression de loucher. C'était une drôle de sensation pour Mia, comme si on la chatouillait à l'intérieur du cerveau. Susanna, toujours du même ton amusé,
« Il est écrit « Église de la bombe divine, révérend Earl Harrigan ». Ça dit aussi « Donnez, Dieu vous le rendra au centuple au paradis ».
Le paradis, qu'est-ce que c'est ?
C'est une autre façon de dire la clairière au bout du sentier.
Ah ! Benzik de la garde du guet parcourait le trottoir, les mains croisées derrière le dos, son énorme derrière se balançant sous le pantalon bleu de son uniforme, mais avec le sens du devoir accompli. Pendant ce temps, le révérend Harrigan disposait ses chevalets. Sur l'un d'eux, il posa un tableau représentant un homme que libérait de prison un autre homme en robe blanche. La tête de tunique blanche rayonnait de lumière. Sur le tableau suivant, tunique blanche se détournait d'un monstre à peau rouge, avec des cornes sur la tête. Le monstre à cornes jetait un regard massacrant à sa tunique blanche.
« Susanna, cette chose rouge, c'est ainsi que les gens de ce monde voient le roi cramoisi ?»«
Susanna, j'imagine, oui. C'est Satan, si tu préfères, le seigneur des enfers. Fais en sorte que l'illuminé te dégote un taxi, tu veux bien ? Sers-toi de la tortue. »
De nouveau, d'un ton suspicieux, visiblement Mia ne pouvait pas s'en empêcher.
« Tu dis ainsi ?» Je dis vrai. Si fait.
Par Jésus-Christ, femme.
D'accord, d'accord. Mia avait l'air un peu gênée. Elle se dirigea vers le révérend Harrigan tout en sortant la figurine de sa poche. 18.
Susanna eut soudain un éclair de lucidité et sut exactement ce qu'elle devait faire.
Elle se retira en Mia. Si cette fille ne pouvait pas dénicher un taxi avec la tortue magique, il n'y avait plus d'espoir. Et les yeux fermés, très serrés, elle visualisa le Dogan. Lorsqu'elle les rouvrit, elle y était. Elle se saisit du micro qu'elle avait utilisé pour appeler Eddie et appuya sur le bouton.
« Harrigan !»
lança-t-elle dans le micro.
« Révérend Earl Harrigan, vous êtes là ? Vous me recevez, trésor ? Vous me recevez ?»
19.
Le révérend Harrigan marqua un temps d'arrêt au milieu de sa tâche et regarda la femme noire. Un joli petit lot, gloire à Dieu, monté dans un taxi. Le taxi s'éloigna. Il avait beaucoup à faire avant son sermon du soir. Son petit sketch avec l'agent Benzik n'était qu'une mise en bouche. Pourtant, il resta là à contempler les feux arrière du taxi qui scintillaient et qui rétrécissaient. Venait-il juste de lui arriver quelque chose ? Juste là ? Était-il possible que... Le révérend Harrigan tomba à genoux sur le pavé, sans se soucier une seconde des passants qui défilaient, de même qu'eux ne se souciaient pas de lui. Il serra ses grosses et vieilles mains de serviteur de Dieu l'une contre l'autre et les porta à son menton. Il savait ce que disait la Bible, que la prière était une affaire privée à accomplir dans le secret de son alcôve, et il avait passé une bonne partie de sa vie à genoux, tout seul, gloire au Très-Haut. Mais il croyait aussi que Dieu voulait que les gens voient ce qu'était un homme de prière, de temps à autre. Parce que pour la plupart, bon Dieu, ils avaient oublié à quoi ça ressemblait. Et il n'y avait pas meilleur endroit, pas lieu plus agréable pour s'adresser à Dieu qu'ici même, au coin de la 2e avenue et de la 46e rue. Il y avait comme un chant ici, un chant clair et doux. Il élevait l'âme, clarifiait l'esprit, et incidemment, il clarifiait aussi la peau. Ce n'était pas la voix de Dieu, et le révérend n'avait pas l'esprit assez stupide ou assez sacrilège pour croire le contraire, mais il avait comme l'impression qu'il s'agissait d'ange. Oui, bon Dieu, bombe divine, la voix des séraphins. Dieu, viens-tu de lâcher une de tes petites bombes divines sur moi ? Je voudrais savoir, cette voix que je viens d'entendre, c'était la tienne ou la mienne ?
Pas de réponse.
toutes ces questions et pas de réponse. Il faudrait qu'il y réfléchisse. En attendant, il avait un sermon à préparer, un spectacle à faire si on voulait dire les choses de manière crue. Le révérend Harrigan se rendit à sa camionnette, se gara le long du trottoir jaune comme à son habitude et ouvrit les portes du coffre. Puis il sortit du véhicule les pamphlets, l'assiette de collection recouverte de soie qu'il avait posée à côté de lui sur le trottoir et le cube de gros bois. La boîte à savon sur laquelle il se tiendrait debout, levait les mains bien haut et criait « Alléluia !» Eh oui, mon frère, pendant que vous y êtes, si vous poussiez un petit « Amen !» Soliste. Kamala a un 8. C'est encore l'autre qui revient par ici. Tu peux connaître son nom et son visage joli, ça ne fera pas d'elle ton ami. Cœur. Kamala 9-10, sache qu'elle n'est pas ton amie. Si tu la laisses, près de toi, elle se glisse. Et à nouveau, il faut craindre pour ta vie.